19h-20h. Et les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Quel plaisir de vous retrouver. Bonsoir, bonjour, bienvenue sur Beurre FM. Les informés, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. 20h, une heure pour commenter, analyser, décrypter l'actualité. La chanson, vous la connaissez. Alors au menu, qu'est-ce que je vous propose ce soir? Tiens. Eh bien, nous, d'abord, je vais ouvrir l'antenne tout de suite, aussitôt, pour vous entendre concernant cette fameuse dose. La troisième dose qui divise, la troisième dose qui parfois fâche au sein d'une même famille. La troisième dose qui aussi interpelle. Et bon, certains réfléchissent, est-ce qu'il faut aller se faire vacciner finalement? Parce que la vérité, disons-le, c'est que sans cette troisième dose, ou sans tout court le vaccin, eh bien on a le sentiment que là on s'oriente vers zéro vie sociale, bien sûr. Alors parlons-en, 0153 48 3000. La menace de décapitation, le député LAREM, LREM, terrorisme de canapé. Il dénonce cela, nous allons en parler, parce qu'effectivement, moi ce qui m'intéresse plus précisément, est-ce que, bon, j'ai pas envie de provoquer les gilets jaunes, mais est-ce que depuis les gilets jaunes, on n'est pas en train d'assister à la montée d'une violence extrême qui est en train de se banaliser dans notre pays? Voilà. Est-ce qu'on peut avoir peur désormais quand on sort, se balader tranquillement en famille? Et je sais pas, je vous rappelle d'ailleurs qu'on a traité un couple de députés, un député, une députée, qui s'est fait lyncher dans le 16e. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Bref, un acte barbare. Autre sujet, évidemment, c'est la conférence avec Olivier Véran aujourd'hui et ses mesures. La vaccination obligatoire, on va en parler. Le pass sanitaire, le pass vaccinal. Bref, tout ce qu'il faut retenir de cette conférence de presse. Et puis ensuite, nous parlerons aussi, vous savez, de ce sujet, naufrage malheureux de migrants. Mais pourquoi personne n'en parle? Londres, Paris, chacun, on a le sentiment qu'il se renvoie la balle. En attendant, on est en train d'assister quand même à 27-30 morts dans une embarcation. Bref, eh bien moi, ça m'interpelle et je voudrais qu'on en parle ce soir. Et puis, autre sujet, je vais en parler dans une poignée de secondes. Tout de suite, 01 53 48 3000. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Je voudrais rappeler à tous celles et ceux qui souhaitent, donc qui font des allers-retours entre le Maroc, c'est tombé il y a quelques heures, je vous le rappelle, donc le Maroc va suspendre ses vols à destination de la France et en provenance de la France à partir de demain minuit. Donc, pour ceux qui sont en affaires ou en voyage touristique depuis le Maroc, ben, si vous nous entendez, il faut prendre ces dispositions parce que le Maroc suspend désormais donc les vols. C'est tombé là, il y a une heure à peine, à destination donc et en provenance de la France pour des raisons donc de crise sanitaire. Et demain, sachez-le, demain, donc tous les vols sont suspendus à partir de demain minuit. Donc prenez vos précautions, vous avez évidemment plusieurs possibilités de passer par la Belgique, par l'Espagne, bref, si évidemment vous êtes menacé de ne plus rentrer. Ouais, c'est compliqué quand même. Allez, le face-à-face avant d'ouvrir l'antenne.
Les informés, le face-à-face.
J'adore, j'ai surpris mon réalisateur et ça l'a déstabilisé. Mais j'aime bien faire ça, moi, tu sais, les mecs, hein, j'aime bien les secouer un petit peu. Nicolas Vidal, quel plaisir de vous retrouver, Nicolas Vidal.
Plaisir partagé, Adil, d'être à l'antenne de Beurre FM.
Tirez bien vos micros.
Je vais même, vous savez, je suis un garçon bien entendu, j'adore la radio. Voilà, bonsoir.
Vous êtes éditorialiste radio-télé, vous êtes aussi le patron de Putsch Media, et qui cartonne en audience, bravo.
Merci.
Et puis, heureux de vous retrouver aujourd'hui face à un jeune journaliste indépendant. Vraiment, il a 19 ans, c'est ça?
C'est ça, oui.
Mais ce que j'aime bien chez vous, c'est que vous avez envie, voilà, c'est cette niaque, voilà, l'envie d'aller provoquer les débats, d'aller chercher le truc.
Bien sûr, il faut aller chercher.
Et c'est pour ça que je veux absolument que vous participiez ici régulièrement dans les informés, parce que nous aussi, hein, la campagne va prendre de l'ampleur, elle va battre son plein, et puis les candidats seront là, et puis je mettrai évidemment vous-même, vous les débatteurs, face aux candidats. Il faudra les titiller.
Bah, écoute,
jeune journaliste, vous en êtes où alors dans vos enquêtes?
Bah écoutez, là on est sur.
Et dans le cahier de doléances.
Voilà, on est sur le cahier de doléances. On en a parlé que c'était quand? C'était il y a une semaine, deux semaines.
Une semaine, ouais. Deux semaines plutôt.
Deux semaines, oui, c'est ça. Oui, bah écoutez, là pour le moment, on est toujours en train d'interpeller les candidats. On a eu monsieur Lassalle avant-hier. On a eu monsieur Philippot samedi dernier en pleine manif. Là on est en train de parler avec madame Hidalgo. Qui c'était un peu compliqué au début, mais là bon.
Ça clash.
Bon, ça clash pas non plus, non, on va pas aller jusque là. Non, vous allez me faire des problèmes, vous.
Ah,
attention, non, ça clash pas, non.
Allez, la petite sonnette, tiens, ça vous fait plaisir.
Non, non, au début, disons que c'était un peu compliqué. On a essayé de la contacter. Elle avait l'air occupée, Madame Hidalgo, mais...
Elle est très occupée.
Mais j'ai reçu...
Elle est à 4%.
Elle est très, très occupée.
Il faut ramer. Hein.
Mais même pour nous, elle est très occupée. Hein. Elle n'a pas le temps. Non, mais elle n'a pas le temps, Madame Hidalgo.
J'ai eu un SMS aujourd'hui. Voilà.
Bah, vous avez de la chance. Nous, on n'a pas eu d'SMS.
Ça va venir.
Allez, le standard est ouvert.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
On va retrouver nos débatteurs influenceurs justement sur les questions qui nous interpellent aujourd'hui concernant les députés notamment. Tiens, je commencerai bien d'ailleurs avec la troisième dose et la conférence de presse d'Olivier Véran. Mohamed, bonjour, bonsoir, un des fidèles auditeurs qui nous appelle, il l'appelle de Lille. Bonsoir Mohamed.
Merci encore. Et vous savez qu'avec moi, vous n'êtes jamais déçu.
Oui, bah, il paraît.
Ouais, et je voudrais remercier Beretin pour leur dire. C'est une des seules radios qui permet aux gens d'avoir un discours contradictoire.
Ben écoutez, c'est la force encore de notre radio, hein, jusqu'au jour où on nous fera taire. Mais bon, en tout cas, écoutez, ici, voilà, l'espace est là.
Franchement, les autres, c'est des radios orientées. Je ne peux plus les écouter.
Ouais. Venez, faites passer le mot. Venez nous écouter, les informer. C'est là que ça... D'ailleurs, je vous le rappelle, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Sachez-le. Merci. Vraiment, très, très nombreux. Alors, quel sujet vous voulez traiter? Alors, la dose du troisième vaccin, la conférence de presse, vous l'avez suivi, la conférence de presse d'Olivier Véran ou pas du tout? Parce que nous, on va la détailler là.
Vous savez pourquoi je ne la suis pas? Parce que je vais dire ce que je pense.
Allez-y.
J'ai rien à apprendre de ce qu'il va me dire sur la
France. Attention, il est en train de durcir le pass sanitaire et le port du masque.
Non, mais c'est clair. Parce que pourquoi ils veulent à tout prix la porte de sortie? Pour moi, dès le départ, il fallait qu'ils trouvent une porte de sortie et c'était le vaccin. Comme j'y crois pas, parce que je pense que ça se partira...
Vous êtes vacciné? Rappelez-moi, je me souviens plus.
Non, le problème, il n'est pas là. Le problème est que je pense qu'ils n'arriveront à rien du tout au niveau du vaccin. Pourquoi? Parce que ce Covid, il partira de lui-même, où il existe en infime partie, c'est dramatisé au maximum. Et comme on voit aujourd'hui que tout est contradictoire, ce qui était valable au début, il faut juste faire un vaccin, maintenant il faut en faire 10, et maintenant c'est toute la vie.
Ouais. Bah, le pass sanitaire, il va être désactivé à partir du 15 janvier. J'aime bien le compte à rebours. La pression qu'on nous met, j'adore.
Les doubles vaccinés vont être has-been.
C'est ça, les doubles vaccinés has-been.
Croyez-moi, vous savez quoi? Ils se casseront les dents. Certains,
j'en sais rien s'ils se casseront les dents, sais pas, mais bon.
J'ai envie de terminer sur un sujet que vous avez traité, la violence. Et j'ai envie de dire, moi, par rapport à la cigarette, à l'alcool, à tout ce qui peut amener du dégât, je dirais que tout s'apprend tout petit. C'est-à-dire, les gens, il faut les sensibiliser au respect de la vie humaine, à des valeurs très importantes qu'on a perdues, qui sont aujourd'hui liées qu'à l'argent, au matériel, à la performance.
Bon.
Il ne faut pas se tourner.
Eh bien, écoutez, je pense que vous allez faire certainement réagir. Mohamed, merci pour votre intervention et merci surtout pour votre fidélité. Merci Mohamed.
Merci beaucoup.
De Lille. 01 53 48 3000, la conférence de presse d'Olivier Véran concernant le rappel de la crise sanitaire. Ni confinement, ni couvre-feu, ça c'est la bonne nouvelle. Rappel vaccinal ouvert à tous les adultes, 5 mois après la deuxième dose. Passe sanitaire désactivé à compter du 15 janvier pour tous les adultes de plus de 18 ans, sans dose de rappel dans les 7 mois après la dernière dose. La validité des tests PCR pour le pass sanitaire ramené à 24 heures au lieu de 72 heures, ça va changer notre vie. Le port du masque obligatoire est partout, y compris en intérieur. Donc messieurs, vous gardez votre masque. Là déjà, vous commettez une infraction. Fin de la fermeture automatique des classes à l'école primaire en cas de contamination d'un élève. Réaction Nicolas Vidal.
Ben, le comité des épiciers en virologie ont frappé encore ce matin, bien entendu. Vous l'avez dit, Adil, on a commencé à nous dire « Je n'annoncerai pas ni de couvre-feu ni de confinement ». Mais en fait, c'est plus grave que ça, parce que vous l'avez dit exactement. Moi, il y a quelque chose qui me... Bon, il y a la troisième dose, et on va en parler, j'imagine. Et puis, il y a aussi cette agression, je pense, démocratique, contre les libertés de 6 millions de gens qui sont non vaccinés, qui vont devoir faire, chers amis, un PCR à 24 heures. Comment ça va se passer? C'est-à-dire qu'il va falloir faire un PCR à 24 heures, payant à chaque fois. Donc, d'une part, ça va impacter les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, les gens qui sont dans la précarité, et puis les gens de tout court, même les Français moyens, parce que ce pays se paupérise à vitesse grand V, mais c'est impensable, c'est impensable. Et pourquoi on fait ça? On continue finalement à resserrer le nœud du collier autour du cou pour.
C'est quoi la stratégie, Nicolas Vidal?
Mais la stratégie,
c'est la coercition. Qu'est-ce qui se trame derrière?
C'est la coercition, Adil. C'est la coercition.
Oui.
C'est-à-dire qu'on en parlait hors antenne, c'est finalement la ligne de crête de ne pas vouloir obliger à la vaccination, mais finalement resserrer pour que les 6 millions de gens qui ont librement choisi...
Alors, est-ce qu'finalement, il ne faut pas rendre la vaccination obligatoire?
Ah ben moi, je ne pense pas. Attendez, la médecine, chers amis, c'est le consentement libre et éclairé. Enfin, il ne faudra quand même pas l'oublier. Moi, vous savez, à un moment donné, je ne suis pas médecin. Vous savez, c'est le pare-feu qu'on utilise à chaque fois. Je ne suis pas médecin, mais concrètement, la médecine, c'est le consentement libre et éclairé. Et aujourd'hui, au-delà de la médecine, Adil, au-delà de la médecine, c'est nos libertés individuelles, c'est nos libertés fondamentales qui sont remises en jeu. Alors oui,
les déclarations d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, qu'est-ce que cela vous inspire?
Eh ben, ça m'inspire la coercition encore plus, et bien entendu, la troisième dose pour maintenant à peu près tout le monde, plus de 18 ans.
Oui, c'est ça.
Donc vous voyez bien, on pourra en reparler, mais il va falloir quand même aussi parler de ce naufrage de la stratégie vaccinale, parce qu'aujourd'hui, on est en novembre 2021, fin novembre, et qu'est-ce qui se passe? L'Europe est à nouveau l'épicentre de l'épidémie. Donc il va bien falloir réfléchir à tout ça, et à force de dire que le vaccin, c'est la solution magique, c'était le cas pour la première dose, rappelez-vous.
Oui.
Puis finalement, il va falloir quand même une seconde dose parce qu'il y a une baisse d'immunité sur quelques mois, et puis maintenant sur la troisième dose. Fait à un moment donné, et puis vous savez ce qui m'énerve, je finis par là, c'est le côté péremptoire des affirmations depuis des mois et des mois et des mois. Ce côté péremptoire, il est absolument insupportable. Et à un moment donné aussi, il y a eu une infantilisation de la population, et maintenant il y a une culpabilisation de la population. Et ça, c'est pas digne d'un État comme la France, qui est quand même une valeur dans les lumières et la démocratie qui nous est chère depuis, je le rappelle, 1789 à première vue.
C'est ça, voilà. Exactement. Alors, Mehdi Jaziri.
Moi, avant de commencer, j'aimerais vous poser une question, Monsieur Vidal. Ce serait quoi la solution pour vous, concrètement? En un mot, qu'est-ce que ce serait la solution?
Alors la solution déjà, c'est de pas aller dans le mur en klaxonnant avec les phares allumés. Mm-hmm. Voilà, déjà concrètement, c'est-à-dire qu'on pourrait se poser la question aujourd'hui, parce qu'il faut se la poser. La question qui se pose, c'est pourquoi avoir mis tout sur la vaccination? Là, on aurait pu se dire, ça aurait été exceptionnel de se dire, tiens, un vaccin marche, machin. Regardez par exemple, il y a une étude qui est sortie aujourd'hui, c'est dans le Figaro, c'est même dans la presse canadienne que je lis tous les matins. Aujourd'hui, le vaccin anti-Covid ne protège qu'à 40% sur le variant Delta. Je précise bien, variant Delta. C'est pas complotiste.com que je cite là, hein. C'est la revue de presse, tapez ça sur Google, vous allez voir. Donc vous voyez bien que là, avec cette information, cette seule information-là, on est entré dans le mur. Parce que ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait des 60%? Qu'est-ce qu'on fait finalement? On n'a pas une protection optimale. Et pourtant, on force avec la coercition au vaccin. Et ça, je trouve qu'on va dans le mur en
claquant. Mais dis, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais dis, attendez, moi, je ne veux pas qu'on y ait le... Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je voudrais vous entendre.
Moi, je vais vous dire la vérité.
Dites-moi.
Je pense qu'au moment où on a découvert le vaccin, au moment où on a vu, entre guillemets, la pseudo-utilité du vaccin, on s'est dit, tiens, on a enfin une porte de sortie.
Oui.
En vérité, là, on est en train de se manger un mur, comme vous le dites, effectivement. Cependant, moi, je pense qu'il faut pas penser que l'État est à l'envie de nous
mais qu'est-ce qu'on pense les jeunes? Les jeunes, ils disent quoi?
Les jeunes,
par exemple, là, concrètement, les plus de 18 ans vont devoir injecter la troisième dose.
C'est très varié. Il y en a sincèrement qui ont peur, qui disent, on va aller, est-ce qu'on va se faire vacciner tout le temps? Certes, oui, il y en a qui sont comme ça, mais d'autres, en revanche, se disent, écoutez, là, pour le moment, on sait pas trop, ils sont dans la compréhension. C'est-à-dire que moi, sincèrement, je vais vous dire la vérité, je ne sais pas plus que vous comment régler ce problème. La preuve, je vous ai posé la question. Vous m'avez dit en gros ce qu'il fallait pas faire, mais pas de solution miracle. On n'a pas de solution miracle encore pour le moment.
Et ça vous effraie tout ça, vous?
Ça m'effraie non, parce que je fais quand même un minimum attention. Bon là, j'ai pas le masque parce que je parle à la radio, mais je fais quand même attention. J'essaye de me protéger un maximum, de protéger mes proches un maximum, bien évidemment. Je pense qu'on a appris à vivre avec. Voilà, je pense que la vérité aujourd'hui, le plus important avec le Covid, c'est pas tellement le vaccin ou pas le vaccin, c'est est-ce qu'on va apprendre à vivre avec, parce que pour le moment, on n'a pas de solution miracle. Il y en a certains qui parlent aujourd'hui maintenant de traitement. Les traitements aujourd'hui, c'est une bonne piste.
C'est une piste depuis le début. On a mis le paquet sur la vaccination, d'accord. Alors que on prévient, on guérit l'épidémie. Avec un traitement. Il faut lire le livre de Xavier Bazin que j'ai reçu dans Pouce notamment ce matin. C'est extrêmement intéressant, c'est des enquêtes extrêmement intéressantes. Il faut aussi se référer, regarder au rapport de la TIH sur, à mon avis, la concentration dans les hôpitaux dans l'année 2020, où on apprend finalement que les patients Covid en médecine hospitalière étaient à 2% et en réa à 5%. Voyez-vous, à un moment donné, la TIH, c'est pas une officine complotiste. Bien c'est sûr. Un organisme qui fait remonter toutes les informations de l'hôpital.
On continue d'en parler, messieurs.
On peut se poser des questions.
On continue de se poser des questions, justement. Nicolas Vidal, le patron de Putsch Media, journaliste indépendant Mehdi Jaziri. On continue aussi de vous entendre. 01 53 48 3000, je voudrais vous entendre partout en France sur la conférence de presse d'Olivier Véran, sur les nouvelles mesures. L'essentiel à retenir, ni confinement, ni couvre-feu. Le rappel vaccinal ouvert à tous les adultes, 5 mois après la deuxième dose. Le pass sanitaire désactivé à compter du 15 janvier. La validité des tests PCR, etc., etc. Le port du masque obligatoire partout en intérieur. On continue d'en parler. À tout de suite. Ne bougez pas. Restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
19h21 précisément, si vous venez de nous rejoindre, c'est Les Informés. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec Nicolas Vidal, le patron de Putsch Media. Il est éditorialiste radio et télé. Avec Mehdi Jaziri, qui est journaliste indépendant, jeune journaliste indépendant. Merci d'être avec nous, messieurs. Débatteur d'un, influenceur. Et le 01 53 48 3000, la conférence à retenir aujourd'hui du ministre de la Santé, Olivier Véran. Ni confinement, ni couvre-feu. Rappel vaccinal ouvert à tous les adultes, 5 mois après la seconde dose. Passe sanitaire désactivé à compter du 15 janvier pour tous les adultes de plus de 18 ans, sans dose de rappel dans les 7 mois après la dernière dose. La validité des tests PCR pour le passe sanitaire amené en 24 heures au lieu de 72, ça effectivement, aïe aïe aïe, ça va faire très mal ça.
C'est un verrou.
Le port du masque obligatoire partout en intérieur et la fin de la fermeture automatique des classes à l'école primaire en cas de contamination d'un élève. Parlons de cette troisième dose.
Les informer, le face-à-face.
Troisième dose de vaccin pour tous, délai de 5 mois. Messieurs, je voudrais vous entendre sur cette troisième dose. Elle fait débat. Est-ce qu'il... D'ailleurs, il y a risque qu'elle devienne obligatoire. La question se pose, elle est là. En tout cas, on nous laisse entendre de façon sous-jacente. Nicolas Vidal.
Mais c'est plus que sous-jacent, Adil. C'est qu'à un moment donné, vous aurez un pass sanitaire désactivé. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure en rigolant, on en parlait, les double vaccinés vont devenir has-been. Mais imaginez, c'est toujours une histoire de chronologie, cette crise sanitaire. Rappelez-vous, au début, on nous a dit, bon, on aura un vaccin. Finalement, on a eu 4 vaccins au début. Hein. On a eu l'AstraZeneca, on a eu le Johnson & Johnson,
Moderna.
On a eu le Moderna, on a eu le Pfizer. Combien il en reste aujourd'hui sur le marché? Combien il en reste?
Pfizer.
Il reste Pfizer. D'accord? Très bien. Donc on nous a dit, chers amis français, allez vous faire vacciner et après on reprend la vie d'après. C'est ce qu'on nous a dit. On va revenir finalement au monde d'avant, serein, où nous pouvions chanter comme ça, gloire à notre démocratie française. Et puis finalement, on s'est rendu compte que, oula, il va falloir peut-être faire une deuxième dose. Il y a des baisses d'immunité, vous comprenez, donc machin. Et vous avez la troisième dose. Et je voudrais revenir sur la déclaration de Jean-François Delfraissy chez nos confrères de France Inter, mardi dernier.
Ouais.
Professeur Delfraissy, qui est président du conseil scientifique, et qui nous a dit, mais il faut, chers amis, allez écouter cette vidéo en replay, c'est France Inter, hein, c'est mardi dernier.
Allez-y.
Et il nous dit finalement, Jean-François Delfraissy, que effectivement, c'est très peu compréhensible pour le public, dont nous sommes le public, parce qu'effectivement, le vaccin ne protège pas ni la contamination, ni la transmission, et il ajoute, parce qu'on lui donne la parole, et il a bien raison, finalement, que bonus, nous avons un bonus, chers Français, c'est que la troisième dose, elle est active en 48 heures. C'est-à-dire la réponse immunitaire à partir du vaccin,
ouais,
en 48 heures. C'est un camelot de lessive. C'est-à-dire que les deux premières doses, il fallait entre une semaine et deux semaines de réponse immunitaire pour être protégé. On s'est rendu compte que la baisse d'immunité, ils n'ont pas voulu en attester, mais finalement, on se rend compte, mais ils sont obligés de dire qu'il y a beaucoup de vaccinés aujourd'hui qui ont Covid, hein. On pourra en parler aussi. Et maintenant, Jean-François Delfraissy nous dit que sur France Inter mardi dernier, hop, la troisième dose, en 48 heures, réponse immunitaire, les amis, vous devenez des goldorats contre le Covid. C'est génial. Et personne, à un moment donné, porte la controverse sur cette question qui me semble essentielle.
Nuançons vos propos, parce que là.
Je ne fais que dire ce que j'ai entendu, hein.
Bien sûr, tout à fait. Vous avez totalement raison.
Mais dis-le, Jerry.
En revanche, moi, je pense que la question qu'il faudrait se poser, c'est de la faute à qui, finalement. L'État n'a fait que suivre les indications de Pfizer. Pfizer a dit, on a tant de pourcentage de réussite. Faites-le, ça va marcher. Excusez-moi, mais à l'époque où on a eu le vaccin, on était totalement perdus. Je veux dire, il y avait des commerces qui faisaient que fermer, des gens qui pétaient des plombs. On avait plein de personnes qui se suicidaient. C'était très grave. Donc,
nous avait interdit les masques, on avait interdit aux pharmaciens de vendre des masques, c'était un Doliprane au lit. Vous voyez, ce que je veux dire, Mehdi, c'est que c'est terrible cette histoire-là, parce qu'il y a beaucoup d'incohérences, il y a eu du mensonge, parce qu'il faut le dire. Il y a eu du mensonge.
L'État était totalement perdu. Voilà ce qu'il faut dire. Non, mais voilà ce qu'il faut dire. Nous, Français, nous sommes perdus. Voilà. Le cahier de doléances que j'ai fait, là, par exemple, le but du cahier de doléances, c'était justement de montrer aussi que le meilleur moyen de régler les problèmes des Français, c'était justement de tous s'y mettre ensemble.
Je vais ouvrir l'antenne, justement. J'avais Mehdi de Saint-Etienne. Ah bah je crois qu'il a dû, Mehdi de Saint-Etienne. Non, pas vous, hein. Mehdi de Saint-Etienne. 01 53 48 3000.
Mais simplement pour finir mon propos, moi je pense que c'est à nous tous, en fait, simplement de nous rendre compte de du problème dans lequel on est.
Vous voulez en venir où précisément, c'est-à-dire
Qu'est-ce que vous voulez, si je comprends bien,
à la fois vous voulez pas faire porter le chapeau donc à l'État, évidemment parce que vous dites oui, l'État n'a pas le recul nécessaire, etc.
C'est qu'on est tous, on est tous dans le même bateau. Oui. Nous sommes tous. C'est ce que
entre l'État et nous, il y a l'État qui est responsable.
Oui.
Elle est responsable. C'est le garant, justement, de ce qui se passe, de ce qui se produit, de ce qu'il faut prendre.
Et comme de l'unité, Adil. Et de l'unité des Français. De l'unité, c'est ce qui est plus le cas aujourd'hui.
Ça, ça ne va pas de notre responsabilité,
moi,
ça.
Moi, je réfléchis en termes d'informations. Quelles informations de plus au niveau du vaccin, au départ, ils avaient par rapport à nous? Toutes les informations qu'il y avait par rapport au vaccin, et je parle bien du vaccin, parce que bien évidemment, Pfizer a eu des casseroles, ça c'est sûr et certain.
Ah oui.
Ça c'est sûr et certain, je vous rejoins totalement là-dessus.
Et on a délégué la politique sanitaire de l'État à Pfizer, il y a d'autres groupes privés américains pour gérer.
En revanche, par rapport au vaccin, sincèrement, quand on nous vend quelque chose qui peut nous sortir de cette crise sanitaire, qui peut sortir des commerces, de ce gros bordel, excusez-moi le terme, qui peut sortir des personnes de la dépression, excusez-moi, mais moi, je me dis, bah, j'y vais. Mais moi, en tant que personne, je ne suis pas l'État, je ne suis pas Emmanuel Macron, je ne suis pas de la République en marche. Excusez-moi, je suis totalement.
J'y vais, je me jette.
Voilà. Je me dis pas, j'y vais, je me jette.
Vous comprenez ça, Nicolas Vidal ou pas?
Voilà. J'entends ce que dit Mehdi, et moi, je suis là pour le débat, et c'est extrêmement intéressant. Mais je veux dire quand même, l'État.
Attendez, parce que c'est intéressant ce que vous dites, justement.
Oui. L'État, pour moi, a une lourde responsabilité, et on en parlait tout à l'heure. On a délégué aussi la crise sanitaire, que ça soit le confinement, le déconfinement. Rappelez-vous, il y a des cabinets comme McKinsey aujourd'hui qui ont géré ça. Et l'État finalement était dépouillé en termes de structure, d'infrastructure. Rappelez-vous des masques, les lits, le curare pour les réanimations. Et ensuite, on a laissé finalement des cabinets de conseil gérer la crise sanitaire. Et ensuite, maintenant, on laisse à Pfizer et à d'autres laboratoires pharmaceutiques le soin peut-être de régler notre problème. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a de sacrés ratés. Et moi, je pense que c'est le début du naufrage de la politique vaccinale. D'ailleurs, je finis là-dessus. L'OMS l'a dit il y a deux jours ou trois jours, finalement, qu'il ne fallait pas compter que sur les vaccins pour sortir de la crise sanitaire. Mmh. Alors pourquoi, Olivier Véran, pourquoi Jean Castex, Emmanuel Macron et Gabriel Attal plutôt, finalement, j'ai été à corps perdu là-dedans et je vous l'ai dit, avance dans un mur en klaxonnant, en imposant une situation absolument inadmissible à 6 millions de Français et même aux vaccinés, aux double vaccinés, qui dans 3 matins devront repasser à la caisse, ou à la caisse de la dose, pardon, excusez-moi, pour finalement continuer à vivre à peu près normalement.
Mais monsieur Vidal, ils sont en train de se rendre compte que les choses ne fonctionnent pas. Sauf que les choses ne fonctionnent pas, d'accord, mais quand? On est en pleine cinquième vague. C'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte que ça fonctionne pas.
Mais c'est la cinquième, vous l'avez dit. C'est la cinquième. C'est quand même. Fait cinq fois que ça passe le manège, quand même.
Oui, mais on n'a pas eu le vaccin pendant les cinq vagues.
Oui, mais ça fait un petit moment, ça fait plus d'un an qu'on a le vaccin.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que.
Il n'a pas tort, ça fait plus d'un an que certains ont le vaccin.
Ça fait plus d'un an, certes. Oui. Mais on est en train de se rendre compte.
On ne parle pas du pass sanitaire, on parle de la vaccination.
Ça ne fonctionne pas. D'ailleurs. L'Autriche, par exemple, avait prévu de confiner les non-vaccinés. Ils ont décidé de confiner tout le monde.
Heureusement,
ça va pas.
Et l'Italie, c'est pareil. Ils sont sous le toboggan de l'autoritarisme.
C'est ça. Mais en fait, regardez. Moi, je vais vous dire sincèrement ce que je pense de cette crise sanitaire. Aujourd'hui, personne ne sait rien. On s'est rendu compte là que le vaccin ne fonctionnait pas. Au dernier moment, ça y est, la cinquième vague arrive. C'est le bordel. Il y a des gens qui commencent à revenir en réanimation. Voilà.
Alors, il y a quand même une technique de l'enfumage aussi. Attention, parce que je vous ai cité tout à l'heure le rapport de la TIH, qui est extrêmement important. C'est un rapport officiel sur quand même l'occupation, somme toute, assez minime des patients Covid et des patients à l'hôpital, patients Covid normaux et patients Covid réa, 2 et 5%. On n'a quand même pas atteint les sommets. Donc certains ont sorti les contre-fonds en disant oui, mais il faut prendre les chiffres, il faut les lisser sur l'année. La réalité, c'est que la TIH, c'est pas une officine complotiste. Il y a quand même énormément d'études aujourd'hui qui sortent. Il faut voir aussi, aller écouter les docteurs Toubiana ou d'autres docteurs à un moment donné. Il y a aussi des voix discordantes, Mehdi, qui veulent. Et ces gens-là, on ne les entend pas. Si on les invite, c'est pour les discréditer sur les plateaux télé. Et finalement, il y a une doxa au-delà de laquelle on ne peut pas aller. Donc vous voyez bien que là, vous dites, on ne sait pas. Mais aussi, l'État a fait cette technique que j'appelle du fumigène, ce fumigène-là pour laisser les gens sans trop savoir finalement les chiffres, pas les chiffres. Peut-être que oui, machin. Et finalement, on se rend compte qu'on est dans une situation compliquée, démocratiquement, une situation compliquée. Et je finis par là, vous imaginez quand
même. Avant de retrouver le coin de 9, 01 53 48 3000, allez-y, mais dis rapidement. Mais dis, Zéry.
Juste un propos très rapide, promis. Moi, là, on va parler de concret. De solutions, parce que j'ai l'impression que depuis le début de la crise sanitaire, on a un débat qui tourne un peu en rond. C'est-à-dire que on a des personnes qui sont, bon, je les appelle vaccinalo-sceptiques. Voilà, j'invente un mot, désolé. Mais je trouve que, en fait, on a un débat qui tourne un peu en rond. C'est-à-dire, le gouvernement veut nous cacher des choses, il veut nous enfermer, méchant gouvernement. Et d'autres qui disent non, regardez, ils veulent nous sauver. Moi, je pense qu'il faut pas voir tout noir ou tout blanc. Il faut voir les choses en gris. C'est-à-dire, encore une fois, l'enfumage. Je ne suis pas sûr que ce soit de l'enfumage. Voilà, c'est mon avis. Je pense sincèrement que là, pour l'instant, ils peuvent pas venir à la télévision et dire bon, bah, les gars, c'est la merde. Bon, bah, on va pas vous aider. C'est foutu. On va tous mourir. Non, ils peuvent pas faire ça. Après, est-ce qu'ils ont raison par rapport à la stratégie vaccinale? Je ne pense pas.
Emmanuel Macron nous a dit on est en guerre.
Le débat reprend dans une poignée de minutes avec Nicolas Vidal, Mehdi Jaziri. Le quoi de neuf, c'est parti.
Les informés, le quoi de neuf.
Comme chaque jeudi, c'est Pascal Boniface, le président fondateur de l'IRIS, qui nous offre son billet d'humeur avec le quoi de neuf. Et vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur autour de l'Éthiopie. Bonjour mon cher Pascal Boniface.
Bonsoir Adil.
Comment ça va? Très bien, ça et va, vous-même?
Ben oui, impeccable.
Nous, c'est animé chez nous.
Oui, par contre, l'Éthiopie, ça ne va pas très bien et on voit comment les rêves peuvent s'effondrer très rapidement. Il y a à peine 2 ans, oui. Le premier ministre éthiopien recevait le prix Nobel de la paix parce qu'il avait mis fin à la dictature, il avait fait la paix avec l'Érythrée et donc on se disait c'est formidable. L'Éthiopie, 100 millions d'habitants, une croissance phénoménale et ça pouvait devenir la locomotive de l'Afrique. Et puis voilà, les problèmes finalement ont ressorti, les Tigréens qui étaient l'ethnie qui avait le pouvoir, ethnie minoritaire mais qui avait le pouvoir, se sont sentis un petit peu marginalisés, ils ont demandé plus de droits, le premier ministre les a refusés et puis a plutôt fait une réponse sécuritaire et militaire. Et puis maintenant, eh bien, l'armée des Tigréens est au port d'Addis Abeba à 200 km. Et il y a eu des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité des deux côtés, aussi bien de l'armée nationale que de l'armée tigréenne. Mmh. Et on voit donc comment quelqu'un qui a eu le prix Nobel de la paix a lancé son pays dans un bain sanglant, avec sur lequel personne ne peut réellement intervenir. Les pays occidentaux rapatrient leurs ressortissants. Et donc ce pays qui était plein de promesses il y a 2 ans est en train de s'effondrer. Et on voit impuissant la communauté internationale ne pas être en mesure de mettre fin à cela. Et c'est un peu tout le drame d'un pays où il y a différentes communautés et chacun ne trouve pas vraiment sa place. On la demande par la force au lieu de négocier des solutions où chacun pourrait estimer que ses droits sont reconnus et qu'on peut vivre dans un ensemble un peu plus grand. C'est le risque, en fait, d'une répétition beaucoup plus sanglante du conflit yougoslave en Éthiopie s'il se désagrège ainsi sous l'effet des luttes communautaires. Et une fois encore, dans l'affaire, il n'y a pas les bons et les méchants. Les crimes sont commis de chaque côté et nous assistons à ce drame impuissant. Et c'est franchement très angoissant de voir ce qui se passe dans son pays, sur lequel tous les espoirs étaient permis il y a 2 ans.
Eh bien, dis donc ce que vous êtes en train de le dire là, alors que l'Éthiopie, disons-le, était considérée comme l'un des berceaux de l'humanité, qui aujourd'hui est en train de s'effondrer face à ce front pour combattre les rebelles, mon cher Pascal.
Oui, exactement. Alors l'Éthiopie a beaucoup souffert. On se rappelle de la grande famine des années 70 qui a conduit à la chute de l'empereur Haïlé Sélassié, la mise en place d'un régime totalitaire, proto-communiste, pendant très longtemps. Et puis il y a eu cette libéralisation. La Chine est très présente en Éthiopie. C'est un pays qui est très proche de la Chine, donc elle n'intervient pas trop. Mais là, on voit bien que le jouet est cassé, est en train de se casser. Et donc, c'est toute la corne de l'Afrique qui risque de souffrir, parce que, bien sûr, les conséquences seront énormes dans l'ensemble de la région.
Eh bien, merci pour votre... Et bravo pour le billet d'humeur d'aujourd'hui, de ce soir. En tous les cas, je vous retrouve dès la semaine prochaine, sans faute, et avec autant de plaisir, mon cher Pascal Boniface.
Bonne fin d'émission, Adil, et merci à tous. À bientôt.
À très bientôt, Pascal Boniface et son quoi de neuf.
Les informés, le quoi de neuf.
Et on marque là donc la dernière pub, tranche pub. On se retrouve dans une poignée de minutes. 01 53 48 3000. Vous voudrez vous entendre partout en France nous dire évidemment sur cette troisième dose qui est en train d'inquiéter pas mal de, évidemment, d'entre nous. Avec Nicolas Vidal qui est avec nous, avec Mehdi Jaziri. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h. Les informer avec Adil Farkan.
9h38 précisément, et si vous venez de nous rejoindre, dernière ligne droite jusqu'à 20h, nous sommes ensemble avec Nicolas Vidal, deux débatteurs influenceurs. Nicolas Vidal, éditorialiste radio-télé, mais également aussi le patron de Pouch Media. Je vous invite à aller voir, évidemment, des choses extrêmement intéressantes, notamment l'interview exclusive de ce matin sur Pouch Media. Mehdi Jaziri, également aussi un influenceur, journaliste, qui bouge avec son cahier de doléances, qui représente, qui a décidé de participer à sa manière à la campagne présidentielle avec son cahier de doléances. C'est bien ça.
C'est tout à absolument. Fait ça. Un résumé magnifique.
Exactement. Allez, c'est parti, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Des députés, second sujet, des députés menacés d'égorgement et de décapitation dans un message reçu sur leur boîte vocale. Le jour venu, tu n'y échapperas pas. Voilà les messages. Ce sont des menaces glaçantes qui ont été reçues par au moins plusieurs députés, donc de LREM, députés du Modem aussi notamment, du Calvados, LREM de la Loire. Bref, ils sont plusieurs. Je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont pas mal. Messieurs, la question aujourd'hui qui nous interpelle, c'est la violence. Est-ce qu'elle est en train extrême, est-ce qu'elle est en train de s'installer dans le paysage, évidemment, tout court de notre France? Et puis surtout, est-ce que ça y est, finalement il y a un divorce, et puis cette défiance à l'égard des politiques, des médias, etc., et que aujourd'hui tout le monde se lâche. Nicolas Vidal, que se passe-t-il?
Ah oui, c'est très très inquiétant aujourd'hui.
C'est inquiétant, non?
Que ce qui se passe, alors j'ai regardé les chiffres, hein. Ça a explosé en 2020, les agressions verbales, les menaces par mail et autres sur les députés, sur les élus aussi. Il n'y a pas que les députés, il y a des élus, bien entendu, et c'est extrêmement
Vous voulez que je lise le message?
Oui, bah, allez-y. Attends, je crois que c'est notamment Ludovic Mendes, je crois, député de la Reine de Moselle.
Je vais venir chez toi, je vais t'égorger comme un lapin avec mon nouveau couteau. Ta tête sera tranchée, tu ne pourras plus voter des lois comme ça, et tu pourras te rendre compte quelques instants pendant ta décapitation que le monde politique va changer. La collaboration va très mal se terminer pour certains, dont toi. Ne pense pas donc que tu pourras être surveillé en permanence ou que tu arriveras à te défendre le jour venu, tu n'y échapperas pas. C'est violent.
C'est extrêmement violent. Et là, on passe des caps très importants. Moi, j'ai deux chiffres, je regardais Adil avant de venir à l'émission. En 2020, c'était 1276 finalement agressions, ou du moins agressions verbales. Et l'année d'avant, c'était 421. Vous voyez, on fait x3. Donc, on arrive à la fin du mandat d'Emmanuel Macron. On se retrouve effectivement avec une violence inouïe, bien entendu. Mais ce qu'il y a dessous, au-delà du tragique de ça, de ce genre de message inacceptable, inadmissible, moi j'aime bien prendre un peu d'auteur de vue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une violence aussi qui est inhérente à la politique. Et c'est-à-dire que depuis le début des Gilets jaunes, des gens se sentent plus du tout écoutés, se sentent méprisés, bien entendu. Ça n'admet pas, il n'est pas admissible effectivement comme un député. Soyons très clairs sur ce point-là. Mais j'essaie d'expliquer qu'à un moment donné, depuis les Gilets jaunes, les gens, ils n'ont plus confiance aux députés, et effectivement, ça a été mis en place parce que la teneur des messages que vous avez lus, que j'ai lu aussi dans la presse, finalement, ça a l'air de faire référence au vote, notamment sur le pass sanitaire. Mais et c'est vrai qu'on s'est rendu compte, on a vu plusieurs vidéos des députés qui ont été pris à partie dans leur permanence, alors verbalement pour celle-ci, mais vous voyez bien la fracture, la défiance, la méfiance même pour les députés, chers amis, pour les députés d'une partie de la population qui ne se sent pas du tout représentée. Et là, on est en train de saper quoi ? La clé de voûte, finalement, de la représentation nationale du député, qui est un... Voilà, ils sont élus par le peuple, ils ont un mandat du peuple. Tout le monde dit que c'est un mandat de territoire. Moi, j'estime que c'est un mandat des Français, plutôt un mandat de territoire, pour moi. Et finalement, c'est ça que ça cache dessous. Donc, on a des énergumènes, effectivement, qui ont des mots vraiment dégueulasses. Il faut les dénoncer. Mais il y a aussi le problème de fond, c'est que la rupture avec la classe politique est consommée, et une partie de la classe médiatique aussi est consommée. Et ça, à un moment donné, il faudra aussi qu'il y ait des choses qui soient...
Est-ce que, comme disent certains, on va pas assister à une guerre civile bientôt?
Malheureusement, elle est larvée.
Elle a commencé. Elle a commencé depuis les Gilets jaunes. Cette guerre civile. On avait une vraie fracture au sein du peuple. Je sais pas ce que vous en pensez.
Oui.
Mais je pense qu'on avait commencé avec ça. Mais moi, je trouve ça quand même un peu réducteur. Le fait que c'est vrai, ce que vous dites par rapport à la politique, mais je trouve ça quand même un peu réducteur. Moi, j'aimerais qu'on parle de la violence. Le sujet de la violence.
Oui.
C'est-à-dire que on a la violence par rapport aux politiciens. C'est inadmissible qu'on attaque un représentant de l'État, certes. Mais parlons de la violence en général. Aujourd'hui, J'ai l'impression qu'on est justement... là, j'ai écouté tout à l'heure le monsieur qui passait au téléphone, Mohamed, c'est ça,
si Mohamed de Lille.
Qui disait qu'il faut sensibiliser. Je pense qu'on a fini, c'est fini. On arrête de sensibiliser maintenant. Il faut de vrais actes. Je pense que... Je vais reprendre des propos de peut-être de gens de droite, mais ça va être très tranché.
Vous pouvez, hein.
Je suis désolé, hein, mais mais je vais vous dire sincèrement, je pense que cette fois-ci, il faut vraiment remettre l'autorité. Il faut être autoritaire maintenant.
Il faut
être autoritaire dans le sens où on ne peut plus laisser passer ça.
Vous pensez
comme
que c'est la solution?
Je pense que c'est la solution premièrement, et deuxièmement, je pense aussi.
L'État n'est pas autoritaire. N'est pas suffisamment.
Sincèrement, faire une vidéo avec Mike Flake et tout, c'est bon. Enfin, je veux dire, c'est ça par hasard.
La galipette, vous parlez de la galipette dans les gens à l'Élysée, oui.
Voilà, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, quelle image a-t-on de l'État? Moi, sincèrement,
j'ai. Faites référence à Sarkozy.
À Sarkozy, à d'autres bien avant. Enfin, excusez-moi, même je prends un.
Non, il y a une désacralisation de la figure présidentielle, très clairement, depuis Nicolas Sarkozy, très clairement.
Et puis aussi, je pense, il y a un autre problème, c'est qu'il faut qu'on arrête de chercher la violence que dans certains endroits. Finalement, quand j'entends le discours de certains, j'ai l'impression qu'on va chercher la violence que dans les cités ou dans les banlieues. Il faut savoir que la violence vient de partout. Par exemple, là, récemment, j'avais lu dans un article qu'un militaire avait été à Belfort, avait été retrouvé avec des armes et des brochures néo-nazis. Donc, on voit que la violence est quand même partout, même chez les militaires. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter de se baser seulement sur des préjugés ridicules, grotesques, et il faut essayer de voir plus loin, que la violence est partout en France, que la haine surtout, parce que la base de la violence, c'est la haine. La haine est partout.
Alors l'autorité, ouais. Tout va.
Il y a deux sujets bien distincts.
Voilà.
Il y a l'état de droit. Faire respecter la loi de la République, partout, en tout point sur ce territoire. Et effectivement, je crois qu'aujourd'hui, il va falloir le faire, parce que ça va très mal finir, à force. Mmh. Ça va très très mal finir. Très très mal finir. Et puis après, il y a cette violence
verbale. Donc rétablir l'ordre.
Oui, rétablir l'ordre, bien entendu. Ça, c'est l'angle mort d'Emmanuel Macron, hein, concrètement, depuis le début du quinquennat. Puis il est dans autre chose. Macron est en train d'essayer de découper la France. Il vend la France à la découpe, peu importe. Mais la violence, je voudrais qu'on revienne sur la violence envers ces députés de la REM. Finalement, je le répète, c'est vraiment extrême. Et vous avez parlé des Gilets jaunes. Oui, ça part de là. C'est-à-dire que vous avez tous des millions de Français qui n'habitent pas dans un quartier, ni rien, qui habitent dans des petits villages du fin fond de la Creuse, du fin fond de la Normandie, et qu'on a invisibilisé. Et quand ils ont montré le bout de leur nez, on les a méprisés. On en a fait des boucs émissaires, et je vais vous dire en gros mots, on les a discriminés. On les bof, ceux qui fument des clopes et qui roulent au diesel, vous voyez. Donc à un moment donné, à force d'invisibiliser, et puis de mépriser et d'insulter, parce que rappelez-vous, pendant les Gilets jaunes aussi, je vais revenir au sujet, hein, Dil Farkan là-dessus, finalement, les Gilets jaunes ont été insultés sur les plateaux télé, on a vu les grandes chaînes mainstream, ils ont été littéralement insultés. Et quand on les faisait venir sur les plateaux, on les prenait, c'était des punching balls. Et ça représente alors des millions de gens, parce que les Gilets jaunes, c'était la partie émergé de l'iceberg.
Ouais,
émergé. C'est ceux qui sont allés sur les trucs, mais il y a beaucoup qui sont restés. Donc finalement, aujourd'hui, vous avez cette violence, je finis là, Mehdi, vous avez finalement, parce que c'est une violence aujourd'hui que vit une partie de la population, ce que fait Emmanuel Macron avec la politique sanitaire, c'est une véritable violence. Une véritable violence. Une coercition. On criminalise, on culpabilise énormément, et maintenant, on va les mettre avec les fers chez eux, s'ils n'ont pas une test PCR 24 heures. Et pour en revenir à ça, il y a des gens effectivement dans le lot, qui ont des actes extrêmement répréhensibles en s'en prenant aux députés. Mais c'est un vrai, vrai problème. Et je pense qu'Emmanuel Macron, pour une politique verticale comme ça, parce que, entre nous, soit dit, on n'est qu'entre nous, tous les trois ce soir, l'Assemblée est une chambre d'enregistrement. Il faut être très clair. Aujourd'hui, il n'y a plus la valeur du député qui défend des projets, qui défend des territoires, qui défend des groupes en opposition. C'est un peu les Playmobil, je suis désolé de le dire. Et puis vous savez, sur la loi passe sanitaire. Sur la loi passe sanitaire, l'article 1 et l'article 2, il n'y avait même pas 200 députés, a dit l'Assemblée nationale. Il n'y avait même pas 200 députés. Donc tout ça, c'est un maelstrom explosif. Et je crois qu'Emmanuel Macron n'a pas bien saisi dans quel état il a mis de pays. Il sera bientôt à 100 peut-être.
Mehdi Zaziri.
Sur le fond, je suis d'accord avec vous. Cependant, je pense que le débat n'est pas là. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui, enfin, vous aviez parlé de la violence qu'on faisait envers les députés, d'Emmanuel Macron avec la crise sanitaire. Tout ça, ce sont des raisons pour lesquelles ces gens ont probablement décidé de les agresser ou de les insulter. Mais le fond du problème, finalement, c'est la violence en général. C'est-à-dire que Si ça se trouve, un député peut très bien renverser le chien d'un autre. Qu'est-ce qu'il va faire l'autre? Il va le buter? Il aurait une bonne raison de le buter cette fois-ci? Non. Il y a pas de bonne raison.
Pour vous, il y a une hystérisation finalement dans
la
société.
C'est ça. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'on vit dans un monde où en fait, il y a deux règles aujourd'hui dans le monde. C'est la violence et le sexe. Tout tourne autour de ça aujourd'hui. La violence et le sexe.
Ça nous promet des lendemains qui chantent. Hein. Non, mais, je sais pas quoi, mais
aujourd'hui, on ne voit que ça. De la violence. On est agressé par la violence. On ne vit qu'avec ça dans les films, dans la télévision.
Encore plus avec les jeunes aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Effectivement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que de la violence.
On fait des caricatures. Les cités, on en fait des caricatures dans les films, sur les plateaux, dans les reportages. Mmh. Voilà ce qui se passe. On sacralise la violence dans les clips de rap, par exemple aussi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, le vrai problème, le vrai fond du problème, c'est la violence. Regardez-vous, monsieur. Vous êtes contre la politique d'Emmanuel Macron?
Ah oui, clairement. Voilà. Je l'assume.
Pour autant, aller agresser un député?
Non, je suis dans le débat d'idées politiques.
Il y a des flics qui vont venir tout de suite en haut.
Que de le débat d'idées.
Non, mais pour être plus sérieux, je pense aujourd'hui, chacun peut avoir ses idées, chacun peut être énervé, mais il faut apprendre à vivre ensemble. Il faut apprendre à régler les problèmes ensemble. Parce que là, aujourd'hui, on est en train de laisser monter une oligarchie à un groupe de personnes qui nous dirigent. Le peuple se désintéresse de la politique, des affaires publiques. Donc en fait, ça crée un manque de communication. Voilà,
il y a un fossé
énorme, fossé, et en fait fossé. Là-dedans,
il y a des gens,
c'est une fracture, voilà.
Et
une fracture
totale, abyssale. Voilà, qui simplement se disent, bon bah je vais me jeter dedans et je vais agresser quelqu'un.
Messieurs, avant de rendre l'antenne, je voudrais quand même qu'on parle de ces migrants parce que c'est terrible. Le dernier bilan, c'est le dernier sujet qui a retenu mon attention. Selon le dernier bilan, ça est 27 morts qui sont mortis hier après-midi dans le naufrage, dans leur embarcation dans la Manche, le plus meurtrier jamais observé, messieurs, Nicolas Vidal. Et personne ne bouge.
Ben, c'est un problème qui, ça fait plus de 20 ans que ça dure. Rappelez-vous de Sangatte.
Oui, Sangatte.
Rappelez-vous de Sangatte en 2002. Sangatte. Après, on a eu les accords du Touquet.
C'est un bilan très lourd, là.
Exactement. Mais c'est un problème de fond. Il y a eu les accords du Touquet, après, qui a ramené la frontière du Royaume-Uni en France. Et après, finalement, le Royaume-Uni a demandé à la France de gérer, ses réfugiés, ses migrants.
Sauf que là, la situation, elle est alarmante.
Bien sûr, mais elle a toujours été.
Oui.
Rappelez-vous la jungle de Calais. Elle a toujours été.
Oui.
Elle est pour les migrants et elle est pour les habitants de Calais aussi. Et surtout, et à un moment donné, ça pose la question, et je vais aller très vite là-dessus, ça pose la question aussi de, bon, je pense, j'ai lu pas mal d'articles aujourd'hui là-dessus, mais de la gestion des passeurs, la gestion mafieuse des passeurs, et ça pose aussi la question aussi des frontières du fin fond de l'Union Européenne, de la protection, Frontex et tout, donc ça pose un problème général. Que ça soit une tragédie, bien sûr que c'est une tragédie, qui pourrait dire le contraire, on est d'accord, mais ça fait plus de 25 ans que ça dure entre le Royaume-Uni et la France, et Emmanuel Macron rougit aujourd'hui, nous fait des déclarations, Gérald Darmanin nous fait des tweets, parce qu'il s'est fait faire détruire.
Gérard Darmanin, il n'aime pas Emmanuel Macron. Hein.
Ah non, mais je pose une question très simple. Il devait renégocier, il a fait effectivement l'accord de Sandhurst en 2018 sur le cas des mineurs isolés qui étaient du côté français, qui voulaient rejoindre la famille du côté au Royaume-Uni. Donc c'était quand même pas une avancée dingue, mais finalement le problème est toujours là, et vous continuerez à avoir des drames, donc ça pose deux questions. Les passeurs d'une part, l'organisation criminelle et mafieuse qui gère ces pauvres gens qui les envoient à l'abattoir, et d'autre côté, le flux des migrants, on l'a vu en Biélorussie, notamment entre la Pologne, de la gestion de nos frontières extérieures de l'Union Européenne.
5 personnes sont soupçonnées. Mehdi Jaziri, avant de rendre l'antenne.
Moi, je vais rejoindre ce que dit M. Vidal. Je pense que l'Union Européenne, en général, a fait une énorme bêtise, une ânerie sans pareil. C'est-à-dire, en fait, ils se sont attaqués sur les migrants qui voulaient passer, au lieu de s'attaquer aux passeurs, notamment. Illégaux, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, on a vu en Grèce à un moment donné des canons à eau, des nouvelles technologies pour voilà, ils s'attardent dessus, ils dépensent de l'argent dessus. Les débats ne tournent qu'autour des migrants, mais on ne parle pas du vrai commerce qu'il y a dedans.
C'était prévisible donc.
Bien sûr que c'est prévisible.
On ne parle pas.
Et le problème empire
moderne que ça fait en Libye, voilà, parce que. Faut rappeler quelque chose, ça on n'en parle jamais. L'esclavagisme moderne aujourd'hui, c'est beaucoup plus que tous les esclavagismes qu'il y a eu dans toutes les époques.
Exact.
Les chiffres sont aberrants. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment que l'Union européenne se rende compte de quel est le vrai
débat.
Problème. Le vrai fond du problème avant de s'attaquer.
Et protéger ses frontières, sinon on aura encore des drames.
C'est
débat
ça.
Débat extrêmement intéressant, messieurs. Merci.
Merci beaucoup.
Merci, journaliste indépendant. Merci, Nicolas Vidal.
Merci beaucoup.
Et au plaisir de vous retrouver sur notre antenne dans les
informés.
Éditorialiste radio-télé, mais également aussi le patron de Putsch Média. Je vous invite à aller voir son site média. Et puis,
moi, c'est Omehdi, O-H-M-E-H-D-Y, tout simplement.
Tout simplement. Influenceur journaliste. Merci à Yanis à la réalisation. Dans une poignée de minutes, c'est Bilal Nedman et Timesport. À demain avec autant de plaisir. Ciao, ciao, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.